Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Saint-Ferréol et de RDY. Et oui, aujourd'hui, Biotope se penche sur l'agriculture biologique. Tout le monde tombe d'accord pour dire que le bio, c'est la solution à nos problèmes environnementaux, à nos problèmes de santé. Et pourtant, nous sommes en droit de nous demander si cela ne se résume pas à des effets d'annonce lorsque l'on remarque que seulement 9% des surfaces agricoles françaises sont en bio, lorsqu'on nous impose de manière plus ou moins opaque les OGM ou lorsque l'on continue de voir pousser des maïs dans nos régions touchées chaque année par la sécheresse. Nous allons donc tenter avec nos invités de parler de la dynamique du bio en abordant la conversion des agriculteurs au biologique, mais également en interrogeant la certification bio. Est-elle suffisante? Nos sols sont-ils récupérables? À quelles conditions? Pour répondre à nos questions, nous accueillons dans les studios Marianne Camus, directrice d'AgriBiodrome. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Et normalement, nous devrions recevoir en cours d'émission Julia Wright, qui est chargée de mission pour AgriBiodrome. Mais avant, nous allons laisser la parole à la rue, puisque nous avons porté nos micros sur le marché crétois pour avoir le regard des promeneurs, des passants, des acheteurs sur le bio.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Bonjour monsieur, est-ce que vous consommez du bio?
Non, rien à foutre.
Pour quelle raison?
Parce qu'on ne sait même pas d'où ça vient, on ne sait même pas de quoi, il n'y a aucune traçabilité, il n'y a aucune loi qui sont conformes mondialement, parce que d'un seul coup il y a des trucs bio qui viennent d'Argentine, qui n'ont pas les mêmes lois qu'en Europe, et c'est n'importe quoi, mais quand même, des fois quand même moi j'en prends. Allez, ciao.
Merci. Est-ce que vous consommez du bio?
Oui.
Pour quelle raison?
Alors là vous me prenez le cours, parce que ça fait tellement longtemps que je prends du bio que je ne me pose même plus la question. Et ben, d'abord parce que les légumes sont meilleurs, la viande aussi.
Et est-ce que vous achetez des produits bio?
Essentiellement, oui.
Pour quelle raison?
Ben, parce que j'ai pas envie de manger des saloperies, tout simplement.
Est-ce que vous consommez du bio?
Oui.
Et vous l'achetez où?
Beaucoup sur le marché, au producteur, de
préférence. Et pour quelle raison vous consommez du bio?
C'est pas tellement plus cher, c'est bien meilleur.
Bonjour madame, je voudrais savoir si vous consommez des produits bio.
Oui.
Vous les achetez où?
Au marché ou au magasin.
Est-ce qu'il y a une raison?
On a des gros amoureux de la terre, en première. Et après, il y aura des raisons de santé, mais c'est en deuxième.
Vous achetez du bio?
Oui. Oui, oui, beaucoup quand même.
Pour quelle raison?
Parce que j'ai un enfant, déjà, et que du coup, j'essaye de lui donner une nourriture saine. Il me dit que c'est les bases de la santé pour la vie, après, et pour le psychique aussi.
C'est uniquement pour la santé, alors?
Oui, oui, surtout quand même. Après, bon, il y a bien sûr des histoires de goût.
Vous consommez des produits bio, si vous achetez des produits bio?
Oui.
Oui. Pour quelle raison?
Ben, parce que je pense qu'ils mettent beaucoup moins de cochonneries au niveau des traitements. Pour une raison de santé, de saveur aussi.
Est-ce que vous achetez des produits bio?
Non.
Il y a une raison?
Je ne sais pas, je ne la connais pas. Je n'y pense pas. À la campagne, on faisait bio, nous, quand nous y étions, enfin bon, on ne le savait pas.
Biotope.
Et oui, à une époque, ils ne savaient pas qu'ils faisaient du bio, pourtant ils en faisaient dans les studios Marianne Camus, directrice d'AgriBiodrome. Un premier micro-trottoir quasiment complètement positif pour l'agriculture biologique, hormis une ou deux réponses négatives. Tout le monde consomme du bio, et pour avoir fait plusieurs émissions autour du bio, c'était pas le cas il y a même 2 ans que les gens répondent aussi positivement sur cette question. Consommez-vous du bio? Est-ce que vous avez vu une évolution des personnes qui se tournent vers le bio?
Oui, on a vu vraiment une augmentation importante de la consommation du bio, en tout cas, et des intentions de bio. Aujourd'hui, il y a presque un Français sur deux qui mange un produit bio par mois. Donc, c'est quand même énorme. Si on compare sur des chiffres 2007 ou antérieurs, on était bien en deçà, voire 30% en deçà de ce chiffre. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a une prise de conscience globale de la société sur des enjeux environnementaux, notamment sur ce qu'implique le bio en termes de pesticides et les retours pour la santé. Alors ce que je trouve drôle dans vos interviews, donc c'est vrai que bon déjà c'est assez c'est très encourageant pour le bio, et puis même on va dire la première interview. On va dire qu'il achète pas bio presque parce que il y a une méfiance et une défiance par rapport aux origines. Donc ça c'est assez intéressant. Après on est vraiment axé sur la santé, excepté une intervention très belle sur les amoureux de la terre. On aimerait bien en avoir plus des comme ça, mais c'est intéressant de voir effectivement que c'est basé principalement sur des questions de santé, sur la question aussi dans les interviews, dans les enquêtes qui sont faites. On voit qu'il y a des passages au bio pour les familles quand il y a un enfant qui arrive. Donc on veut toujours donner le meilleur de soi, le meilleur de la terre aux générations futures. Alors ce que je trouve étonnant en même temps, surtout sur, j'imagine que les interviews ont été faites sur le marché de Cré. C'est sur la question de la prise de conscience politique, de ce que ça implique aussi de manger bio à l'échelle de la France, mais à l'échelle aussi globale. Ce que ça implique aussi en termes de revenus pour les producteurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ne sont pas du tout compris aujourd'hui, puisque là, on est assez finalement autour de soi, de la protection de sa santé, de la protection de sa génération. Alors, il y a évidemment une interview sur la protection de la terre, et pas forcément sur aussi ce qu'a un agriculteur, là où on a envie de mettre ses sous, et sur la question d'être un consommateur aussi aujourd'hui. Donc ça, c'est marrant, le fait que ça ne se retrouve pas dans vos interviews.
Alors, Marianne Camus, on l'a dit, vous êtes directrice d'AgriBiodrome. On va commencer par le début, en quelques mots. Est-ce que vous pourriez nous présenter AgriBiodrome, quelles sont ses missions principales ?
Oui, alors AgriBiodrome a été créé en 1986 dans le Diois par les pionniers de la bio, ceux effectivement qui croyaient une agriculture, ce qu'on appelait à l'époque alternative, et c'était aussi un mouvement un petit peu contestataire contre l'agriculture intensive et industrielle issue notamment de l'après-guerre. Et pour le développement, donc AgriBiodrome est une association en faveur du développement de la bio sur le territoire et de défense, donc avec aussi une action syndicale de défense de la bio sur le département. Donc on appartient à un réseau régional qui est Corabio et à un réseau national, donc la FNAB. Aujourd'hui, nos métiers principalement, c'est d'accompagner à la conversion. Donc par des formations, par de l'information auprès d'un public agriculteur, de les former aussi sur des techniques, puisque la bio, contrairement à ce qui a été dit dans le petit reportage, pas sûr que les grands-parents faisaient de l'agriculture biologique, c'est aussi assez technique, c'est pas un retour à une agriculture...
C'est pas anti-progressiste.
C'est pas anti-progressiste, voilà. C'est aussi beaucoup d'innovation, mais beaucoup de technicité, donc qu'on met à disposition des agriculteurs. Voilà, donc si je résume très brièvement, c'est de la formation, de l'information, des supports de communication, c'est tout ce qui va permettre aux agriculteurs, de se sentir aidés, appuyés pour leur conversion, mais aussi une fois qu'ils sont convertis. Et d'ailleurs, ce mot, c'est drôle, c'est marrant. Il y a assez peu de journalistes qui relèvent. C'est étrange, conversion. Conversion
oui,
à la bio.
C'est un côté religieux quand même.
C'est un petit côté religieux. Hein. Donc c'est pour ça que nous, on évite d'utiliser ce terme. C'est les terres qu'on convertit, même si peut-être que c'est aussi pour l'agriculteur un moyen de porter un regard nouveau sur son métier et ce qui l'environne. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, donc notre métier, c'est d'accompagner les agriculteurs à l'installation, mais aussi en place, par des formations, par de la technique, notamment avec la chambre d'agriculture avec laquelle on est en partenariat, mais aussi pour la mise en réseau. C'est important de se sentir appuyé dans un réseau solidaire d'agriculteurs, et c'est essentiel.
Alors, vous êtes évidemment très très bien placé pour nous parler Du bio, les forces en présence, finalement, on a parlé du Diwa qui était précurseur avec ce qu'on appelait l'agriculture alternative. Aujourd'hui, je crois que la Drôme et l'Ardèche en Rhône-Alpes sont très très bien situées en matière d'agriculture biologique.
Et bien sûr, donc si on revient à la situation nationale, hein, je reprends les chiffres de l'agence bio, donc ce sont des chiffres
clés. Moi j'ai eu 9%, je ne sais pas si c'était
non,
bon.
Non, c'est... Alors, vous êtes très très optimiste. Donc en fait, la France, on est à 2,6% de la surface agricole utile en bio. Donc on est au 20e rang européen. Sniff. En Rhône-Alpes, évidemment, heureusement, on augmente un petit peu. Donc, on est à 4,2 de la SAU pour Rhône-Alpes avec près de 2000 agriculteurs. Et c'est sur la Drôme, on va vraiment relever. Donc, en Drôme, on compte aujourd'hui à peu près 800 agriculteurs. Donc, soit 23% d'augmentation par rapport à 2008 et 2009. Donc, c'est énorme. Et sur le département, donc, les agriculteurs bio représentent 10% des exploitations du département. Voilà, donc par rapport aux 2,6% de la SAU sur le territoire français, la Drôme est à 10%.
Et donc, on a l'impression finalement que c'est encore une fois la société civile, puisque là, on est dans la rue et on se rend compte que de plus en plus de citoyens vont vers le bio, alors que ça représente que 2,5% en France. Donc finalement, c'est la société civile qui un jour va peut-être faire changer les modes de production.
Alors c'est les deux, hein, on va pas le Grenelle de l'environnement, c'est donné comme objectif 20% des surfaces en bio à l'horizon. Donc bon, je dirais il y a aussi des impulsions étatiques, gouvernementales, mais aussi à l'échelle des collectivités territoriales pour impulser le bio. De toute manière, on va dire que tout le monde a intérêt à développer le bio, pas simplement pour augmenter le chiffre d'affaires des agriculteurs. On n'est vraiment pas dans cette dynamique-là. Effectivement, on a des individus qui ont envie de faire attention à eux, attention aux générations futures. On a aussi des collectivités, parce que finalement, quand on ne mange pas bio, on le paye plus cher. C'est-à-dire que l'agriculture conventionnelle, elle vous coûte énormément. Elle vous coûte parce que la PAC et les aides aux agricultures conventionnelles, c'est un coût énorme. Et aux collectivités, c'est-à-dire que la dépollution de l'eau et des nappes phréatiques, elle vous coûte très cher à chacun. Et aux collectivités. Donc on va dire que c'est vraiment un intérêt long terme pour tout le monde d'augmentation des surfaces en bio.
Pour revenir aux conversions, aujourd'hui en Drôme, même dans le Val de Drôme, on va être encore plus précisément, est-ce que c'est une dynamique plutôt croissante des agriculteurs traditionnels qui se tournent vers le bio ?
Alors c'est assez varié. Donc effectivement, sur la Drôme, on a eu 65 nouvelles conversions en 2010 et 70 qui ont augmenté leur surface en bio. Donc on va dire, ne serait-ce que quand je vous donne ces chiffres, on a deux types de populations. Donc celles qui étaient déjà en bio et qui vont agrandir des surfaces, des conventionnels qui vont commencer à faire passer une partie de leur exploitation en bio. Et puis on a des gens aussi qui ont envie de travailler autrement, donc qui s'installent. Ça peut être des néo-ruraux, effectivement, qui vont s'installer et qui ont une certaine idée de ce que c'est que le métier de paysan, le métier d'agriculteur, et qui ont envie d'être en phase avec la terre, tout simplement. Après, on a aussi, on va dire, ce qu'on appelle, nous, l'agriculture biologique opportuniste. Effectivement, celui qui voit que c'est plus intéressant de faire de la céréale en bio que de la faire en classique, qui va se lancer en bio. Bon, bah, je dirais, pourquoi pas, ça fait de moins mal à la terre quand même.
Quoi qu'il arrive. On va faire une petite pause musicale avant de retrouver un reportage réalisé par Eric sur justement la réalité et un agriculteur qui est en train de se convertir au bio. Je rappelle que cette émission est réalisée en direct des studios de Radio Saint-Féréol et que s'il y a des auditeurs qui souhaitent participer, n'hésitez pas à prendre votre téléphone pour poser des questions à Marianne Camus au 04 75 40 62 49 40 62 49. Vous êtes bien à l'écoute de Biotop. La conversion est une réalité sur notre territoire. Eric est allé à la rencontre de monsieur Magnier, agriculteur sur Soyan, en cours de conversion.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Quand je me suis installé, j'ai travaillé avec mon frère, où on avait un élevage de 120 chèvres, avec transformation fromagère, et puis vente sur les marchés, expédition sur Rungis et en grande surface, ainsi de suite. Le premier virage, c'est en 98. J'en avais marre de ce style de production, disons, où il y a beaucoup de volume. Moi, j'ai préféré revenir à un élevage un peu plus traditionnel. Donc j'ai quitté l'exploitation où on était avec mon frère pour venir m'installer ici, où j'ai refait petit chèvrerie. Donc depuis 98, je tourne avec 30 chèvres. Donc c'est un petit retour en arrière, où il y a un peu moins de pression sur le travail. Donc toujours par contre en vente directe. Donc là, on a fait des marchés avec le développement de la vente locale, donc avec un petit magasin qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est une petite exploitation, 30 chèvres, 30 hectares. Donc j'ai continué quand même, quand on a arrêté les... Ça m'a fait une baisse de revenus quand même. Donc j'ai compensé avec un développement d'une filière un petit peu semence. Donc rééquilibrage un petit peu de la ferme. Et depuis un an et demi, ou ça va faire deux ans là, j'ai pris la démarche de transformer une partie de l'exploitation en bio. J'ai un petit programme là de conversion de 10 hectares. J'ai mis en place un petit poulailler, bio, une cinquantaine de poules avec un objectif de monter à 150-200 poules et de transformer aussi le fromage, quoi, de mettre l'élevage caprin en bio à partir de 2012-2013. Donc sur les surfaces, là j'essaye de faire du blé de qualité, quoi, on va dire de qualité boulangère. C'est-à-dire que je vais essayer de... Parce que dans ma démarche, moi, de passer au bio, c'est de quitter aussi une forme d'agriculture, quoi, industrielle, et de dépendre du reste. C'est-à-dire, si je fais de la bio, je ne vais pas livrer ma céréale, moi, à Chabeuil, dans un silo qui va retransformer en aliment. Voilà. Si je quitte l'agriculture conventionnelle, sur cette partie-là, c'est pour vraiment avoir une autre forme d'agriculture, avec un objectif de vente directe, 100% de vente directe. De transformation, bon, par d'autres opérateurs, peut-être. Hein. Si j'ai fait du petit épôtre, j'arriverai peut-être pas à tout le vendre, mais bon, je vais essayer de le vendre. Ici, on a des structures avec une structure avec un élevage, et même une structure comme moi où j'ai 30 hectares, mais avec beaucoup de ventes directes, c'est quand même, je veux dire, on a du résultat. Il arrive un temps, mais à un moment donné, on est des chefs d'entreprise quand même, donc il faut toujours se tenir au goût du jour et puis aller vers quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, moi, je vais sur le bio parce que voilà, il y a des récepteurs qui font qu'en faisant de la veille directe, on écoute ses clients quand même. On voit ce qu'ils font, on voit comment ils consomment, et c'est vrai que c'est... aujourd'hui, le consommateur, je vois sur les marchés, à tarif égal, un fromage à prix égal, le consommateur, si vous mettez devant, prendra le bio. Si c'est la même qualité, nous, on a les récepteurs, on dit, tiens, on voit qu'il y a plus de bio qui ne vendent pas plus cher que le conventionnel, mais on voit que la file d'attente sur le marché est un peu plus longue, ou des trucs, voilà, c'est... Je vais avoir la première récolte bio cette année. Donc là, on a commencé à travailler avec Richel, là, qui fait le pain bio, là, qui est Truinas, avec dans l'idée de faire un peu comme dans le temps, c'est-à-dire que moi, je fournisse le petit épeautre et le blé, et puis que lui, il me fournisse le pain après. Et petit à petit, bon, moi, je vais essayer de vendre ma céréale. Et aujourd'hui, moi, j'ai investi sur 10 hectares. Je dis, voilà, je vais essayer. Économique, elle est là, quoi. Moi, je fais du bio, il faut aussi que je m'y retrouve. Hein. C'est-à-dire que j'arrive à faire mes fourrages, que j'arrive à faire du fromage, que j'ai assez de fromage, et ainsi de suite, que j'arrive à vendre mon bio autant que le conventionnel. Quoi.
Oui, parce que vos rythmes sont complètement bouleversés, du coup.
Et c'est surtout que c'est difficile parce que j'ai les deux. L'autre jour, j'y pensais, quoi, parce que j'ai mis encore un petit peu d'engrais là sur mes conventionnels. Tiens, là, j'y vais pas cette année. Donc, ça bouleverse. Mais on n'a pas, tant que j'ai pas 2-3 ans de recul, je peux pas savoir économiquement. Là, j'ai commencé le petit épeautre, j'ai commencé des blés. Je sais pas. Déjà, c'est des variétés que je connaissais pas. Donc, c'est inconnu. Est-ce que je les ai semés au bon moment? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, ça, c'est à caler après avec le temps. Bon, apparemment, ils ont bien sorti et tout. Donc, normalement, je peux pas. niveau de la culture. Après, il y a le tout ce que, puisqu'on a plus aujourd'hui, il y avait des mauvaises herbes, on avait l'habitude, ben on traitait les mauvaises herbes. Mais aujourd'hui, non, il y a mauvaises herbes. Voilà, quand est-ce qu'il faut passer la RC-tri et ainsi de suite. Tout ce, ouais, il y a plus de, il y a toute une démarche technique à se réapproprier parce que voilà, parce que dans le temps, il n'y avait pas de produit, donc ça marchait quand même. Quoi.
Plus la technique d'observation.
C'est vrai que la culture raisonnée avait ramené un peu l'homme dans les champs, on va dire, pour aller dire, c'est pas la peine de sortir l'appareil toutes les 5 minutes, va voir s'il y a besoin de traiter. Et je pense que bio, c'est encore pire, parce que c'est quand même une surveillance qui est un peu à réapprendre. C'est-à-dire, là j'ai regardé les champs, cette année, j'ai dit, bon, c'est à peu près propre, je vais les faire sans RC trignes. Mais j'en ai que 2 hectares et demi, quoi. Le technicien est venu pour présenter un petit peu les avantages. Le cadre technique de dire les aides, le crédit d'impôt, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire en bio, donc on a fait une discussion. Hein, pour la... Et sur la discussion, c'est vrai qu'il n'y a que moi qui suis parti, sur les 5. Mais bon, les autres, ils sont d'accord pour qu'on achète du matériel dans la CUMA, en RC-tri, en bineuse, voilà. De façon même qu'ils ne soient pas bio aujourd'hui, ils veulent économiser du produit.
C'était donc la première partie de ce reportage réalisé auprès d'Éric Magnier à Soyon, agriculteur en cours de conversion. Et là, il y a plein de termes qui nous ramènent à la discussion de la conversion. Alors, ce monsieur Éric Magnier, est-ce que c'est un converti éthique, un converti financier, opportuniste? Comment vous le voyez? Quelles sont les différentes motivations des agriculteurs qui veulent se convertir, Marianne?
Moi, ce que je trouve passionnant dans votre interview, c'est tous les termes utilisés. Et il y en a un qui est particulièrement beau, c'est qu'il va apprendre à surveiller, il va réapprendre. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve passionnant dans le métier d'agriculteur en bio, c'est justement se réapproprier son métier. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement confiance déjà à une banque, on ne fait pas simplement confiance à la mécanique, à la technique, à la chimie. On est sollicité dans ce qu'on a de plus vivant en nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant qu'être vivant, on fait attention à la terre et aux vivants. Et on réapprend à écouter, à regarder, à observer. On n'est pas simplement en train de lire, on va dire, un mode d'emploi. Comment je fais pousser des carottes? Mode d'emploi A, B, C, D. Non, on regarde, on est attentif. Et ça, c'est assez... C'est intéressant de voir que vraiment... C'est pour ça que le terme de conversion est intéressant. C'est il va apprendre à regarder finalement sa terre et ce qui pousse dessus.
Pour rester dans la terminologie et dans le vocabulaire religieux, quand vous prenez votre bâton de pèlerin pour aller convertir les agriculteurs traditionnels, justement, y parler davantage ou qu'est-ce que vous mettez en avant pour solliciter et pour inciter les agriculteurs à passer au bio? Est-ce que vous essayez juste de jouer sur la fibre environnementale? Ça me semble pas suffisant.
Ah non, c'est pas assez. Hein. Bon, l'idée de simplement regarder pousser les carottes, ça fonctionne pas, et heureusement. Le bio, ça doit être viable. Tout agriculteur qui se lance dans cette démarche doit pouvoir en vivre, et en vivre correctement. On n'est pas simplement... Enfin, être agriculteur en bio, c'est pas juste... ça doit pas juste lui permettre de survivre, on est bien d'accord. Donc, par exemple, à Gribiodrome, on fait avec la Chambre des diagnostics de conversion, où la question des débouchés et de la viabilité économique sont des choses extrêmement importantes. Il y a la question technique, mais il y a aussi cette question-là. Quel débouché et quelle viabilité économique pour la production? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Là, on voit bien dans l'interview que tout a été balisé, on va dire, hein, de voir effectivement... déjà, l'agriculture biologique, c'est à voir de manière globale. Donc là, on voit bien qu'il y a des bêtes... justement pour supprimer les intrants, que c'est quelque chose de global. Donc effectivement, il y a des avantages économiques si on a des débouchés, et donc là, il a bien vu qu'il y a des débouchés, notamment
c'est
en vente directe.
Voilà, la vente directe, c'est un des débouchés principaux des agriculteurs bio.
C'est la plus souhaitée. On va dire que c'est pas forcément la principale, mais c'est la plus souhaitée. Sur le territoire de la Drôme, justement, la vente directe, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et justement, les agriculteurs ont beaucoup de satisfaction à le faire. Et là, il en a parlé, le fait d'avoir des récepteurs, d'être à l'écoute du client, de savoir ce qui se passe, de pas être déconnecté de la chaîne.
Récepteur, mais en même temps, quand il parle de file d'attente qui est plus longue, on sent aussi qu'il se dit qu'il ne faudrait pas louper le tournant du passage au bio et finalement des attentes des consommateurs qui sont en train de changer.
Bon, mais je dirais heureusement, c'est-à-dire qu'il sent qu'il y a un marché derrière et il y répond. Donc voilà. Mais en même temps, ce serait aussi inquiétant qu'un agriculteur se lance dans l'agriculture biologique sans, on va dire, ressentir et sans avoir non plus compris comment il allait pouvoir écouler sa marchandise. Donc c'est quand même une donnée importante de la question des débouchés économiques.
Alors il évoque à l'intérieur de ce reportage également... Ben, l'accompagnement, puisque une conversion, c'est pas simple. On a l'impression qu'on réapprend un autre métier, mais aussi qu'on doit se réapproprier des techniques, peut-être investir sur des nouveaux matériaux, des nouveaux outils, et aussi laisser en friche, ou en tout cas en l'état pendant 3 ans ces terrains, ce qui est un coût d'opportunité énorme, puisqu'on ne le cultive pas, on ne le travaille pas. Donc du coup, quels sont les différents accompagnements, tant humains que financiers, pour inciter ce passage au bio?
Alors il y a des incitations, notamment grâce à la CCBD, le département et la région, pour l'achat de matériel spécifique. Ça, c'est quelque chose d'important. En termes d'accompagnement humain, donc je vous disais, nous, on propose avec la Chambre donc, des diagnostics de conversion. On propose des formations qui s'intitulent « S'installer en bio ». Et puis après aussi un réseau, ce qu'on appelle notre réseau de fermes de démonstration, qui permet d'aller rencontrer d'autres agriculteurs pour savoir comment ils ont fait. Donc quelque chose d'important aussi dans ce métier, c'est le partage, c'est de se parler et de voir un peu quelles sont les techniques utilisées par les autres pour pouvoir se les approprier. Donc la question du réseau est essentielle, mais la question aussi technique. Ce qui est intéressant aussi à la fin de ce reportage, c'est que il montrait aussi que certains agriculteurs en viennent à cette démarche-là pour économiser aussi, on va dire, les intrants, pour économiser un certain nombre de choses. Donc c'est aussi par l'innovation technique que certains arrivent au bio.
Alors sur ces mots, on fait une nouvelle pause musicale avant de retrouver une interview réalisée par téléphone avec Lydia Bourguignon qui nous parlera de la qualité des sols.
Pazzo il mondo, pieno d'amarezza, intrappolato come un pesce in una rezza, rimasto appeso all'amo per un labbro insanguinato, ha resistito poi d'un tratto sprofondato, ma tu l'hai ritrovato, col fiato l'hai scaldato e poi l'hai liberato. Pazzo il mondo, pieno d'incertezza, nella miseria tu sei l'unica ricchezza, perduto in un parcheggio malamente illuminato, povero cane con un calcio allontanato, ma tu l'hai ritrovato, un nome gli hai fischiato e lui si è avvicinato. Caro il mio amore, sprecherò il tuo nome sui muri di quartiere, sul vetro di un portone, come lunga questa strada, nascosta sotto ai fari, sarà come credevi, sarà quel che aspettavi. Pazzo il mondo senza una carezza, in ogni lacrima una traccia di purezza, e brucerò ogni giorno in una vampa di furore, se devo vivere sarà di crepacuore, mi prendo anche il dolore, lo pago al suo valore, al costo dell'amore. Passa il mondo, non c'è più salvezza, solo i tuoi occhi, la tua tenerezza, accesa alla finestra come un vecchio candeliere, do caccia al buio per non farti mai cadere, così potrai vedere, così potrai sapere. Caro il mio amore, sarai mai consumato da questo sguardo triste che un giorno è ricambiato, era nel fresco di una sera, sul giglio dell'estate, ricordi che risate. Caro il mio amore, mi stringi che fai male, non voglio più sapere, non voglio mai imparare, ho tutto quello che mi serve, i tuoi capelli sul cuscino, vederti da vicino. Pieno d'amarezza, pazzo il mondo, pieno d'incertezza, pazzo il mondo senza una carezza.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Alors, ce laboratoire d'analyse microbiologique des sols, hein, donc c'est l'étude de la vie, on l'a créé avec mon mari Claude Bourguignon en 1989, après avoir quitté l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Alors, c'est un laboratoire, nos analyses concernent le côté chimique comme tout le monde, comme beaucoup de laboratoires de sol, d'analyse de sol, mais nous, on y ajoute une analyse de la biologie, c'est-à-dire savoir si un sol est vivant et aussi une détermination du type d'argile que contient les sols.
Et aujourd'hui, quel est l'état global de nos sols agricoles ?
Alors aujourd'hui, l'état global des sols agricoles, eh bien, c'est pas terrible. Hein. Pour la plupart, en chimie, ça va très bien. Hein, ça, les sols sont pourvus pour la plupart, dans la plupart des cas, en éléments et en oligo-éléments. En revanche, ce qui manque énormément, c'est la vie dans les sols, c'est-à-dire la faune et les microbes qui vont permettre le passage des éléments aux racines et aux plantes.
Donc les principales carences d'un sol suite à une agriculture traditionnelle, c'est la disparition de la vie microbiologique. Est-ce qu'il y a aussi des pollutions dans les sols tout simplement suite à l'agriculture traditionnelle ?
Alors c'est un petit peu compliqué, je vais essayer d'être assez succincte et précise. En fait, le plus gros problème de nos sols à l'heure actuelle, on parle toujours de pollution par effectivement les engrais, mais le gros problème, c'est la disparition de la matière organique. Dans les années 50, au début de ce siècle jusqu'en les années 50, nos sols avaient 4% de matière organique. À l'heure actuelle, la moyenne est de 1,3%. Et ça, c'est le vrai problème de ces sols, parce que si on n'a pas de matière organique ou si on a peu de matière organique, eh bien, en fait, on va avoir disparition de la faune, ce que je disais, la microbiologie, la vie dans les sols, et cette perte de la faune va entraîner une perte de la porosité, de l'aération des sols, et ça va amener des conséquences extrêmement embêtantes au niveau, après, de la dégradation, de la pollution, et même de la dégradation jusqu'à l'érosion, et ce qu'on voit à l'heure actuelle, les glissements de terrain, chaque fois qu'il pleut, les rivières sont couvertes de boue. C'est vraiment trop de personnes pensent toujours aux polluants, mais c'est vraiment le gros problème, c'est la perte de la matière organique dans les sols.
Et alors, le postulat ou le choix de 3 ans d'attente pour une transition de la culture traditionnelle à la culture biologique, est-ce que c'est suffisant pour vous ou est-ce que c'est une moyenne basse ?
Alors, ce côté 3 ans, uniformisation pour tout, bien entendu, il faut une moyenne, mais la question ne doit pas se faire comme ça. Ça dépend du type de sol que l'on a. Par exemple, un agriculteur qui va avoir un sol argilo-calcaire récupérera beaucoup plus vite son sol et donc peut-être qu'une moyenne de 3 ans, ça ira. Mais par exemple, si on fait de la pomme de terre ou de la betterave, ce sont des cultures extrêmement brutales pour les sols qui provoquent des dégâts plus importants, et à ce moment-là, 3 ans, c'est pas suffisant. C'est toujours embêtant de mettre une norme. Il y a des sols, effectivement, 3 ans, ça peut aller, et il y a d'autres sols, il vous faut beaucoup plus. Donc, c'est une vraie étude qui devrait permettre de dire quand est-ce qu'on peut passer. Mais il faut bien une moyenne, et on va dire 3 ans, mais pour nous, ça nous satisfait absolument pas.
Et quand on parle de 3 ans, est-ce que c'est 3 ans où on laisse son sol en friche ou il faut apporter un certain travail pour recréer cette vie-là où ça se fait tout seul ?
Non, là, pour beaucoup de gens, l'agriculture biologique, c'est pas le passage, par exemple, de mettre de la matière organique, d'arrêter les produits de traitement. Hein. Tout à l'heure, c'est évident que l'ajout de pesticides, de fongicides, c'est extrêmement grave pour les sols. Mais ceci concourt à la perte de la matière organique. Si vous faites, et ça a été un des problèmes au début de l'agriculture biologique, c'est ce transfert de la matière organique, entre guillemets, de synthèse à une matière organique biologique, ça ne suffit pas. Si on ne reprend pas les règles du sol, retravailler le sol, utiliser des plantes qui vont restructurer aussi le sol, ou par exemple faire de la rotation, tout ça va permettre de passer en agriculture biologique. Mais ce n'est pas, je passe de la synthèse au naturel. Il faut bien d'autres choses pour aller jusqu'à l'agriculture biologique et à la restauration des sols.
Alors, une dernière question, parce que finalement, on a l'impression qu'on peut toujours récupérer. Après tout, pour passer de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture bio, il suffit de laisser son terrain en 3 ans. Est-ce que un sol peut être définitivement mort ?
Définitivement mort, difficile à dire. Je dirais que nous, avec des techniques de reconstitution avec de la matière organique, qui va coûter effectivement très très cher, je pense, et c'est certainement ça l'espoir, c'est qu'en fait, ça mettra peut-être de très nombreuses années, mais je crois qu'on peut remettre des sols debout. Le problème, c'est que, c'est le problème de notre époque, hein, puisqu'on parle d'environnement, d'agriculture durable, mais de perte aussi de surface cultivée, il faudra y mettre un prix, puisque reconstituer de la matière organique, ça ne se fait pas. Faire du compost ou mettre des fortes quantités de compost, et ben ça coûtera. Mais je pense que on peut remettre vraiment des sols debout, même dans des sols qui sont quasiment entre guillemets, on va dire, ou à l'agonie ou mort.
Vous êtes bien de retour dans l'émission Biotope. Finalement, on finit sur une note positive, puisque aucun sol n'est définitivement mort. Merci à Lydia Bourguignon d'avoir répondu à nos questions. Autour de la table, toujours Marianne Camus, directrice d'Agribiodrome. Nous avons été rejoints par Julia Wright, qui est chargée de mission pour Agribiodrome et qui revient d'ailleurs d'une exploitation. Bonjour Julia.
Bonjour.
Alors, cette interview qui nous parle des sols, qui nous parle aussi de la légitimité du bio, est-ce que ça vous provoque quelques réactions chez vous, Julia ?
Quelques réactions. Oui, c'est-à-dire que dans le sens où les 3 ans de conversion ne sont jamais nécessaires pour retrouver un sol parfaitement restructuré, un sol sans résidus de substituts chimiques, etc. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est que la bio ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le règlement biologique ? C'est une obligation de moyens et pas de résultats. Donc on est vraiment sur des pratiques mises en œuvre par le producteur. Et derrière, avec une garantie évidemment au maximum de non-contamination des produits, mais on n'est pas sur une obligation de résultats systématiquement.
Ça veut dire qu'on peut avoir des produits bio qui sont pas riches en oligo-éléments, qui sont
non,
encore
quand pollués. Je parle de résultats, c'est de résultats de non-contamination. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de produits chimiques, de produits de synthèse, enfin chimiques en agriculture biologique. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura zéro trace dans les produits. On est par l'environnement, par l'air, par l'eau, par les sols. Il y a une contamination évidente dans notre environnement aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour faire la différence entre les pratiques mises en œuvre par le producteur et l'environnement dans lequel il évolue.
Alors vous, vous revenez d'une exploitation, vous parliez, Marianne, d'un diagnostic lorsque un agriculteur venait vous voir avec une volonté de conversion. Est-ce que du coup vous avez un regard quand même sur ces sols sans forcément faire un audit ou une analyse aussi pointue que pourrait la faire le laboratoire d'analyse microbiologique ?
Je reviens d'une formation, en fait, pour être plus précise, d'une formation en biodynamie, notamment. Donc là, on est déjà sur une autre étape après la conversion. On est vraiment sur une étape des producteurs bio qui veulent aller plus loin dans leur pratique et optimiser leur pratique agronomique par le biais de la biodynamie. Après, moi, ma vision par rapport au sol de nos producteurs bio, évidemment, qui sont en bonne santé. Pas tous, on essaie toujours d'optimiser.
Non, mais je parlais d'un agriculteur traditionnel qui vient vous voir. Le diagnostic que vous leur proposez, est-ce qu'il intègre un regard sur leur sol en fonction effectivement de leur culture, des anciennes cultures qu'ils ont pu proposer, ou pas du tout, parce que la norme c'est 3 ans et finalement ben voilà, on part de ce principe là et on s'intéresse pas forcément à la qualité ou pas des sols au moment où on décide de passer au bio?
Non, parce que le producteur aura lui-même également des remarques à faire sur les particularités de ses sols tassés, qui réussissent mal, des sols pauvres en matière organique. Donc en fonction de lui, de son diagnostic qu'il a fait sur ses années de pratique, on va mettre en place, on va lui recommander différentes rotations avec plus ou moins de légumineuses, avec plus ou moins d'apport de matière organique ou de plantations pour restructurer le sol avec des cultures annuelles, avec des racines pivotantes par exemple. Voilà, donc on prend en compte le diagnostic fait par le producteur, parce que dans le cas d'un diagnostic de conversion, on n'a pas le temps non plus de vraiment faire un profil de sol avec des analyses chimiques, comme en parlait Lydia Bourguignon. Mais en allant sur le terrain et en échangeant avec le producteur, on arrive déjà à percevoir les faiblesses des sols du producteur. Hein.
Elle parle également, pour régénérer les sols, de la rotation des cultures. Aujourd'hui, est-ce que de la monoculture dans le bio, ça existe ?
Ça existe, la viticulture.
Ça... Ouais.
non, en termes de culture annuelle, ça peut exister, mais c'est absolument pas durable. Et on voit qu'au bout d'un moment, le producteur se cassonnait. C'est pas possible dans le temps de perdurer avec les mêmes pratiques agronomiques qu'en conventionnel.
Alors, oui. Marianne.
C'est effectivement ce qui est intéressant dans son analyse, c'est la question d'un terme qui revient à plusieurs reprises, c'est la question de la globalité. L'agriculture biologique, c'est pas simplement la substitution d'un produit et d'une méthodologie, donc d'un engrais chimique de synthèse par des engrais naturels, c'est la méthodologie globale qui est à revoir. Et c'est vraiment l'intérêt, effectivement, quand elle dit remettre un sol debout, où il faut bien autre chose pour restaurer le sol. On est vraiment dans une problématique globale.
Alors, on va retourner sur le terrain avec la suite du reportage réalisé sur l'exploitation de Monsieur Magnier, donc, qui est agriculteur en cours de conversion sur Soyan.
On va reparler un petit peu de la terre, c'est-à-dire qu'une terre qui a connu de l'exploitation traditionnelle l'a passée en bio.
C'est 3 ans. Je ne sais pas si c'est 3 ans faciles ou 3 ans difficiles. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais c'est facile, parce que comme on les a désherbés pendant toutes les années antérieures, il n'y a pas un stock de mauvaises graines, ce qui fait qu'on reprend. Mais après, est-ce que c'est vraiment une terre qui a toujours reçu de l'engrais? Est-ce qu'elle réagit? Comment elle va réagir pendant qu'elle reçoit? Et voilà, donc cette terre, je ne sais pas comment, franchement, je ne sais pas comment elle réagit. Aujourd'hui, les agriculteurs ont la technicité quand même. Hein. Donc, le tout, c'est qu'ils soient convaincus d'aller dans le bio. Ils donneront le moyen de réussir. Et ils savent trouver l'information.
On part faire un petit tour à côté de la ferme.
Allez, on va aller faire un petit tour de côté de la ferme.
Voilà la petite parcelle. C'est du bio. Donc là, j'ai essayé une culture que je n'ai jamais fait. Là, c'est un mélange de graminée, mais la graminée est mal sortie. Là, c'était de l'avoine avec de la veste. Donc c'est d'une production que je n'ai jamais fait. Donc c'est pour ça qu'il y a juste ce carré. C'est un essai. Donc voilà. Et ça, c'est mon petit essai d'ail. Et puis là, j'ai fait un essai de maïs ou de culture de printemps. Donc ça, en conventionnel, j'aurais pas fait. Parce que déjà que j'ai pas beaucoup d'hectares et que je me plains, oui, si encore les
subdivisés.
Voilà, les anciens, ils m'ont dit, mais t'en fais pas plus dans ton genre d'affaires. Aujourd'hui, la perte d'agriculteurs, c'est ça, c'est que les gens arrivaient à leur retraite avec un outil qui était peu productif pour un jeune ou qui amenait pas assez de revenus. Donc ça a tendance à aller plus souvent à l'agrandissement qu'à l'installation. Aujourd'hui, on a des styles de nouveaux installés ou des gens qui ont plus de recul et plus de diversité dans l'agriculture, qui fait que même une petite ferme aura un petit projet, un projet d'un agriculteur dira mais moi ça me convient. Un gars qui veut faire des abeilles, il n'a pas besoin d'avoir 300 hectares. Le gars qui veut faire du légume, quand il aura amené bien ses 3 hectares, ça va lui suffire, quoi. Lui, il faut que aujourd'hui, l'agriculture familiale, il n'a bientôt plus, quoi. Il y a souvent l'agriculteur qui a son métier, et l'épouse fait autre chose, ou vice-versa. C'est l'épouse qui est agricultrice, et l'époux fait... Voilà, donc c'est ça qui change aussi dans l'agriculture. Moi, j'ai une ferme tout à fait viable et transmissible. Après, transmissible, voilà, dans les heures de travail que je fais, parce que quand même, on fait pas beaucoup d'heures, on est souvent là. C'est plus la notion d'astreinte, on fait quand même beaucoup d'heures, parce qu'on multiplie par le nombre de jours. Aujourd'hui, bon, j'ai le service de remplacement, je fais un peu des réunions, mais sinon, quand on est éleveur, ben, la traite, elle y est tous les jours. Donc ce qui veut dire que c'est pendant 300 jours, pratiquement, et il faut y être. Même aujourd'hui, vous êtes un agriculteur, le service de remplacement coûte que 90 euros par jour. Ben oui, mais plus le prix de mes vacances et tout. Alors, voilà, c'est qu'il nous manque, certains éleveurs, il nous manque l'assise financière pour pouvoir faire les deux. Si c'est viable, c'est transmissible, on reste quand même des petites structures. Nous, on reste encore un peu... pas les derniers paysans, parce qu'on n'est pas les derniers, mais voilà, c'est pas des affaires quand même qu'on peut mettre sur le marché, c'est pas standard, quoi, ça reste une ferme.
Nous venons à parler un petit peu des circuits de cette agriculture biologique. Vous êtes un petit peu au cœur de la réflexion, j'imagine, justement, de la réflexion du territoire par rapport à tout ce qui est circuit. Sur la Drôme, qu'est-ce qui va se développer pour favoriser l'écoulement de ces marchandises dans le respect, bien sûr, du consommateur et aussi du producteur?
Le respect du consommateur et du producteur, c'est d'y mettre le plus de liens possible entre les deux. Donc après, c'est le contact. C'est ce que je disais tout à l'heure, comment on fait venir les gens sur une ferme, comment l'agriculteur communique avec ses consommateurs, quoi, avec ses clients. Après, ça, c'est les circuits courts. Après, un circuit court, c'est quoi? C'est la MAP, c'est... Il y a plusieurs formes qui se développent et je pense qu'ils vont continuer à se développer. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette vente directe? Est-ce qu'on peut faire du demi-gros ou du gros, c'est-à-dire livrer des restaurants, livrer des cantines? Ou là, ça va demander une normalisation parce que, bon, après, les cantines, il y en aura qui seront équipées. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en face? Quel outil va falloir mettre en face ces cantines pour qu'elles puissent justement accéder aux produits bio? Donc, est-ce qu'il faudra qu'il y ait des opérateurs entre l'agriculteur, producteur et la cantine, qui va éplucher le légume? Mais ça, bon, on ne sait pas aujourd'hui. On sait qu'on fait une étude pour savoir. Et justement, là, peut-être que BioValley amènera des aides s'il faut mettre des outils entre ces opérateurs. Mais le tout, c'est de dire aujourd'hui, le lien se fait. Hier, on a dans le programme BioValley, il y a déjà des gens qui doivent accompagner les cantines. On a mis une stagiaire sur une commune de Montoison qui ont l'idée de s'approvisionner localement parce qu'il y a le bio et le local, quoi. C'est bio local en premier, mais local en deuxième. Quoi. C'est même les politiques, quoi. Ils préfèrent le local au bio qui vient d'Argentine ou d'Italie. Donc, ce qui est un peu normal. Vous êtes sur la commune, bon, mais si les enfants ils mangent de la viande, ils peuvent aller voir l'élevage à côté ou les légumes, qui peuvent dire, ben, c'est ce gars de la commune qui a servi la cantine. C'est le mieux, quoi. Mmh.
D'accord. Donc ça, c'est un petit peu l'idée globale de développement à venir pour les produits bio.
Voilà. Le tout, c'est que je le dis bien, nous on est là, BioValley, quoi, le sens politique est donné, mais on ne remplacera pas les opérateurs. Il faut que les opérateurs, ils aient l'envie, ils aient les projets, et là on vient en appui à tous ces projets. En même temps, là, les anciens, l'agriculture c'est foutu. Quand les gens disent que c'est foutu, c'est que comme ils ont fait, c'est foutu. Mais les autres, ils feront autre chose. Ou ils feront autrement. Ils feront au goût de l'époque, quoi. Voilà, c'est... Aujourd'hui, bon, ça ne me fait rien qu'il y ait des gens qui vivent avec 3 hectares de maraîchage. Je leur dis, ben, bravo. Voilà, il y en a pour tout le monde dans l'agriculture. Quoi. Je crois que celui qui veut, qui a son projet, il faut qu'il aille au bout.
Merci Eric d'avoir réalisé ce reportage. Alors il y a plein de questions finalement qui sortent de ce reportage. La première finalement, c'est la question des perspectives du bio. Est-ce que le bio peut grossir au point d'ajouter des intermédiaires? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça correspond tout simplement à la démarche même du bio? Marianne ou Julia? Marianne.
Bah, c'est déjà le cas. Il y a des intermédiaires. Aujourd'hui, vous avez des transformateurs, vous avez des plateformes.
Ça peut s'industrialiser. C'est déjà industrialisé, le bio.
Il y a des... Tout dépend de l'échelle de l'industrie dont auquel vous parlez, mais il y a des intermédiaires aujourd'hui, effectivement. Vous avez des transformateurs et vous avez des plateformes. Ça ne veut pas dire que le bio s'est industrialisé pour autant. On a vu, ça représente encore un chiffre d'affaires extrêmement faible. Après, sur l'organisation des filières, effectivement, les filières s'organisent tout doucement. D'ailleurs, AgriBiodrome, avec les collectivités territoriales, y participe hein, à la question de la structuration des filières en circuit long, mais bon, surtout en circuit court. Hein. Effectivement, il a fait état notamment du développement et de la question extrêmement positive qui est liée au circuit court.
Alors, revient également, ça a été une première réflexion posée dans le micro-trottoir qui a ouvert cette émission, le bio qui vient d'Argentine. Est-ce qu'il y a une unité des certifications? Est-ce qu'il y a plusieurs certifications bio? Si on mange du bio argentin, finalement, est-ce qu'on a le même produit que si on mangeait du bio français, Julia?
Oui, il y en a plusieurs. Alors après, au niveau européen, il y a la même réglementation pour tous les États membres de l'Union européenne. Et l'Union européenne a mis en place également des accords d'équivalence, à savoir qu'elle reconnaît pour 9 États dans le monde l'équivalence dans leur cahier des charges au niveau de leur propre territoire, pour que les produits importés puissent bénéficier directement du logo européen sans certification en plus ou sans contrôle en plus. Après, pour d'autres pays qui ne sont pas dans cet accord d'équivalence, pour qu'un produit puisse être importé en Europe, il faut qu'il y ait un contrôle supplémentaire pour qu'il respecte le cahier des charges spécifique européen. Donc voilà, après un produit biologique en Europe, il respectera le règlement européen. Mais il a effectivement différents cahiers des charges. Après, il y a une charte éthique internationale qui a été rédigée par IFOAM, donc le mouvement international de l'agriculture biologique, qui, elle, reprend tous les enjeux écologiques, environnementaux, sociaux, qui a été approuvé par tous les mouvements de la bio dans le monde. Donc il y a quand même une unité, au-delà des cahiers des charges techniques, une unité, on va dire, plus de mouvements de société et de vision de la société aujourd'hui. Global, quoi.
Alors, on ne pourra pas l'entendre, mais il y a un micro-trottoir assez édifiant qui nous parle finalement du flou autour des labels bio, parce qu'il y a beaucoup... En tout cas, il y a beaucoup de marques, beaucoup de labels, en particulier avec les supermarchés qui se sont un petit peu emparés de l'agriculture. Concrètement, il existe combien de labels? On peut se fier à quoi quand on veut choisir son produit?
Alors, il existe un label...
Voilà.
Et des marques. Le label européen, il existait auparavant le label AB, le label donc, qui appartient au ministère de l'Agriculture français, donc le label français, qui aujourd'hui n'est plus qu'un label, commercial pour identifier des produits bio, mais derrière, il n'y a plus de cahier des charges français puisque ça a été unifié au niveau de l'Europe. Donc le label européen, aujourd'hui, c'est l'eurofeuille, comme on l'appelle. Voilà, donc on a un label reconnu par les pouvoirs publics au niveau européen. Ensuite, il y a différentes démarches privées qui ont été mises en place, qui sont à l'initiative de la bio aujourd'hui, notamment le mouvement Nature et Progrès, la marque également Déméter au niveau de la biodynamie, et très récemment, une nouvelle initiative depuis la nouvelle réglementation européenne s'est mise en place, à savoir Biocohérence, qui est également une autre marque en fait, qui est née en réaction à ce règlement européen suite auquel la France a perdu son cahier des charges spécifique en production animale. Donc effectivement, il y a différentes marques et c'est une problématique pour le consommateur, pour qu'il puisse réellement comprendre ce qui se passe derrière toutes ces marques, mais à savoir que le socle, on va dire plus ou moins commun pour toutes ces différentes initiatives, c'est le logo européen. Et dès lors qu'il y a un logo en plus, on peut imaginer que c'est systématiquement une démarche supplémentaire du producteur ou du transformateur.
Alors, il y a une question qui nous vient de Radio Diwa, justement, autour des labels.
Bonjour. J'ai entendu parler d'une nouvelle certification qui va plus loin que celle de l'agriculture biologique. D'après ce que j'ai compris, elle prendrait en compte la politique sociale de l'entreprise agricole, notamment les salaires, les conditions de travail, l'origine des approvisionnements, par exemple. Qu'en savez-vous? Que pouvez-vous nous en dire, s'il vous plaît?
Alors, qui s'y colle?
Je pense que cette dame parle de la marque Biocohérence, qui est née très récemment, qui effectivement... Au-delà d'un cahier des charges technique qui, d'une part, est plus rigoureux que la réglementation européenne, enfin plus strict, on va dire, puisque plus rigoureux, a également une charte qui reprend les principes fondamentaux de la charte IFOAM dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir avec des enjeux sociaux, environnementaux, écologiques, qui pour l'instant ne sont pas, c'est très difficile en fait à chiffrer, à savoir vraiment à chiffrer ces éléments-là, mais dans laquelle s'engage le producteur et s'engage à améliorer ses pratiques qu'il a aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment dans une démarche d'amélioration des pratiques qu'est mis en place cette charte, qui reprend également les éléments de Nature et Progrès qui est à l'initiative de, enfin, qui est à l'origine de la bio dans les années 60.
Alors malheureusement on arrive à la fin de cette émission. Évidemment il y a encore plein de questions qu'on aurait pu et qu'on aurait dû aborder. Ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine rencontre. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à tous les auditeurs de l'avoir écouté.
Au revoir. Merci.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioValley.